Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme. Et donc nous sommes dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à Nietzsche, donc le philosophe allemand, une des figures majeures de la philosophie contemporaine. Et pour en parler, nous sommes avec Benoît Boybunel, professeur de philosophie et membre du comité de rédaction de Crise et Critique, et auteur sur ce sujet d'un article dans Jägernaut numéro 1. Donc bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors donc, évidemment, tu es un habitué de l'émission et tu vas nous parler donc aujourd'hui de Nietzsche, donc qui est voilà une des figures majeures de la philosophie contemporaine et qui présente le paradoxe intéressant qui nous a un petit peu mené à concevoir cette émission, que c'est un philosophe qui est, disons, revendiqué à la fois à l'extrême gauche, notamment dans la philosophie post-structuraliste, de Deleuze, par exemple, ou de Derrida, ou encore de Foucault, qui s'en sont nommément inspirés, Judith Butler aussi s'en réclame. Et puis à l'inverse, force est de constater que beaucoup de penseurs d'extrême droite et de droite conservatrice s'en sont réclamés tout au long du XXe siècle, à la période nazie notamment, mais au-delà. Alors évidemment, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire un mauvais procès anachronique en disant que finalement Nietzsche serait un penseur nazi. Finalement, aucun de ses critiques sérieux ne le dit, puisqu'on s'appuie ici notamment sur la critique qu'en a fait Domenico Losurdo. Et même Domenico Losurdo, bon, par ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire sur Domenico Losurdo, qui est un philosophe stalinien, mais bon, c'est quand même, voilà, il a produit quand même une biographie intellectuelle qui fait un peu référence, qui s'appelle Nietzsche, le rebelle aristocratique. Et dedans, il dit, et je pense que c'est ce à quoi on va essayer de tenir dans cette émission, que Nietzsche, évidemment, est un penseur complexe qu'on ne peut pas réduire simplement à, évidemment, sa philosophie politique, et qu'il a écrit des choses très intéressantes, mais malgré tout, il a bien une philosophie politique qui guide toute son œuvre, et à partir de laquelle il faut relire son œuvre, et qu'on ne peut pas faire l'impasse, comme trop de gens le font encore aujourd'hui, sur cette dimension politique militante et réactionnaire, en l'occurrence, de son œuvre, sans pour autant dire que Nietzsche était un penseur nazi. Losurdo, lui, au contraire, dit qu'il faut penser Nietzsche dans son temps, et son temps, c'est la fin du 19e siècle, il faut le penser comme un philosophe réactionnaire de la fin du 19e siècle en Allemagne, même si évidemment il est aussi plus qu'un philosophe réactionnaire de la fin du 19e siècle. Donc peut-être Benoît, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, à ton avis, pourquoi est-ce que Nietzsche fascine tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite? Comment expliquer que malgré des prises de position politiques qu'on trouve en filigrane dans son œuvre, qui le place clairement dans le camp réactionnaire, pourquoi est-ce qu'il est mobilisé encore aujourd'hui à gauche et à l'extrême gauche?
Oui, c'est une excellente question. Effectivement, il est mobilisé par exemple par Alain de Benoist, qui est un des grands représentants de la nouvelle droite et de l'extrême droite dans « Au-delà des droits de l'homme ». Il est mobilisé par Francis Cousin aujourd'hui, qui est un rouge-brun explicite. Il est mobilisé par beaucoup de penseurs d'extrême droite encore aujourd'hui, mais il est mobilisé aussi par des penseurs qui se disent de gauche et progressistes, comme Stigler, Alain Korn, Lacoula Barthes, etc. Tous ceux qui ont signé l'ouvrage « Pourquoi nous sommes Nietzschiens », par exemple. Je pense que ce qui rassemble en fait la pensée nietzschéenne, c'est une critique de la modernité. Et donc l'antimodernisme peut être tout autant d'extrême droite que d'extrême gauche. Il peut être d'extrême gauche si c'est un anticapitalisme, par exemple, qui remet en cause la modernité capitaliste. Et il peut d'extrême droite s'il est réactionnaire et qu'il se réfère, par exemple, à une forme de primitivisme avancé, etc., etc. Donc, du coup, l'antimodernisme de Nietzsche, je pense, peut parler autant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Et Nietzsche, par exemple, a remis en cause l'idéal des droits de l'homme, la Révolution française, qui est une révolution bourgeoise, donc ça, ça peut parler à l'extrême gauche, mais ça peut aussi parler à l'extrême droite, qui va être réactionnaire, conservatrice, anti-lumière, etc., etc. Je trouve que un des avantages vraiment décisifs, par exemple, de la critique de la valeur à laquelle j'appartiens, c'est de renvoyer dos à dos les lumières et les contre-lumières, et de montrer que les deux sont bourgeoises et qu'elles renvoient une même logique capitaliste. Et donc, du coup, je pense que dans le système de la critique de la valeur, on peut critiquer Nietzsche complètement de façon émancipatrice pour éviter autant l'écueil d'une gauche nietzschéenne que d'une extrême droite nietzschéenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que l'anti-bourgeoisisme de Nietzsche est une bourgeoisie qui ne s'assume pas. Parce que c'est une bourgeoisie finalement nationale qui cherche en fait à réagir à sa propre décadence pour se développer à nouveau frais. Par exemple, l'antinationalisme de Nietzsche aussi, je pense que c'est un nationalisme qui ne s'assume pas. En témoigne la référence aux présocratiques, qui est typiquement allemande chez Nietzsche, et en même temps qui se veut détacher de l'Allemagne décadente. Donc toutes ces antinomies, je pense, sont à questionner, et ces antinomies qui sont présentes chez Nietzsche expliquent comment, à travers un certain antimodernisme, Nietzsche va pouvoir être tout autant récupéré par l'extrême gauche anti-lumière que par l'extrême droite anti-lumière. Mais c'est un peu la même chose qui s'est passée avec Heidegger, finalement. Heidegger a pu être une référence pour l'extrême gauche à travers Agamben, le dernier Althusser, le comité invisible, etc., mais aussi une référence pour l'extrême droite. Et c'est toujours l'antimodernisme qui a mu, et aussi l'anti-humanisme qui a mu ces individus. Je pense qu'il faut chercher une voie par-delà humanisme et anti-humanisme nietzschéen-heideggerien pour dépasser le paradigme postmoderne, qu'il soit d'ultra-droite ou d'extrême-gauche, comme je viens de le dire. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de dépasser l'antinomie qui nous oppose lumière contre lumière, humanisme anti-humanisme, et qui finalement crée des confusions.
Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Benoît, parce que effectivement, on voit que finalement, ce qui plaît à la fois à l'extrême droite, mais dans une certaine extrême droite surtout, et dans une certaine extrême gauche chez Nietzsche, c'est le fait que finalement, comme l'indique le titre de Domenico Losordo, de sa biographie intellectuelle, que c'est un rebelle aristocratique, c'est-à-dire que finalement, il va contester finalement une grande partie de la société moderne. Donc, par exemple, il va critiquer la division du travail, il va critiquer la bourgeoisie, il va critiquer même des choses qui peuvent paraître plutôt de droite ou d'extrême droite, comme le nationalisme, le ressentiment antisémite. Il va critiquer aussi la culture et la morale, qui là peuvent du coup parler plus à l'extrême gauche. Il va critiquer aussi finalement la culture de masse, etc. Mais ce que me semble montrer Losordo, c'est que finalement, ce positionnement, il se fait non pas au nom finalement d'une idée qu'il faudrait aller au-delà des Lumières, d'une certaine manière au-delà de la modernité capitaliste, sous la forme d'une certaine manière d'un dépassement émancipateur, comme on en avait parlé dans l'émission qu'on avait consacrée aux Lumières et aux anti-Lumières, mais plutôt finalement, alors sans vraiment tomber complètement dans l'anti-Lumière, parce qu'il y a un rapport qui est complexe aux Lumières chez Nietzsche, notamment le Nietzsche de la deuxième période, entre guillemets, hein, donc le Nietzsche des années, on va dire, fin des années 1870, début des années 1880, qui souvent est le Nietzsche sur lequel la gauche s'appuie, qui est un Nietzsche, disons, qui va trouver des vertus dans le libéralisme de Voltaire, par exemple. Et alors, un des aspects qui me semble intéressant, justement, chez Losurdo, c'est qu'il va dire, effectivement, il y a des différences entre le Nietzsche, entre guillemets, du début, de la naissance de la tragédie, le Nietzsche, disons, de la période pro-lumière, entre guillemets, et le Nietzsche de la fin, le Nietzsche du surhomme, de la volonté de puissance, etc. On reviendra un petit peu sur ces trois Nietzsche, entre guillemets, mais ce que lui explique, c'est que finalement, la cohérence qu'il y a entre ces trois moments, c'est que Nietzsche reste toujours fidèle à un impératif que lui qualifie de contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que Nietzsche, vraiment son principal ennemi, selon Losurdo, hein, on va en discuter, c'est vraiment la révolution, en fait. La révolution, qu'elle prenne la forme de la révolution bourgeoise, la révolution française, la révolution évidemment socialiste ou communiste à la fin du 19e siècle. Il semble que le fil rouge, ça soit effectivement cette position contre-révolutionnaire et qui effectivement peut prendre différentes formes puisque finalement on peut être voltairien et être contre-révolutionnaire. Voltaire était quelqu'un qui avait un mépris pour les masses populaires. Ça, c'est une constante par contre chez Nietzsche, le mépris des classes populaires. On peut être voltairien finalement et être pour une sorte d'aristocratie de l'intelligence qui dominerait les autres. Et être évidemment contre-révolutionnaire, parce que Voltaire n'était pas révolutionnaire. Et par contre, là, Nietzsche, évidemment, va s'attaquer de manière constante, par contre, à la Révolution française, Rousseau, le socialisme. Et donc ça, c'est effectivement une forme de... Voilà, ce qu'il y a de cohérent dans la philosophie de Nietzsche, en tout cas, c'est cette position contre-révolutionnaire à toutes ces périodes. Alors peut-être que... Avant de revenir un petit peu sur les différents moments de l'écriture de la philosophie de Nietzsche, notamment de sa dimension politique, et aussi évidemment de revenir sur les différents thèmes qui nous parlent aujourd'hui, la question du féminisme, de la démocratie, de l'esclavage aussi dont parle beaucoup Nietzsche, peut-être qu'il faut commencer par peut-être une présentation un peu globale de la philosophie de Nietzsche. Donc Benoît, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur la philosophie de Nietzsche? Notamment, évidemment, sur la philosophie du dernier Nietzsche, qui est quand même celle qui a le caractère, disons, le plus systématique, c'est sa philosophie de la vie, de la volonté de puissance, etc. Tout en revenant un petit peu peut-être sur aussi sa philosophie avant, dès la naissance de la tragédie dans les années 1870, et puis son moment un petit peu lumière.
Si on veut caractériser la philosophie de Nietzsche, c'est une philosophie solitaire déjà. C'est une philosophie d'un homme seul qui a dit « Toute philosophie est une biographie inavouée de son auteur. » Et donc qui, à travers sa philosophie, va traduire sa propre biographie, son propre vécu. Et à travers cette perspective, et c'est le cas de le dire, se dessine le perspectivisme. Nietzsche aussi, entre la grande vitalité et la grande dépression. Entre la grande surabondance de la vie et la grande dépression. Certains ont pu dire que Nietzsche était bipolaire, par exemple, qu'il avait connu des phases maniaques où il était extrêmement exubérant, extrêmement enthousiaste, et des phases dépressives où il était très souffrant. Il avait aussi d'autres maladies, bien sûr, mais en tout cas, on a pu dire ça de lui. Et lui disait que cette capacité à s'approprier deux points de vue sur la vie, un point de vue exubérant et surabondant, et un point de vue dépressif et presque décadent, était une façon de saisir des déterminations historiales qui se manifestaient à travers l'histoire. Où il y avait aussi des manifestations dépressives et décadentes et des manifestations de surabondance de la vie. Donc du coup, Nietzsche était un peu le porteur d'une histoire à travers son vécu. Ça, c'est Nietzsche, vraiment le Nietzsche intime. C'est le Nietzsche de l'avant-propos du Gai Savoir qui dit « Je suis guéri maintenant, J'ai connu énormément de tribulations dans ma vie et le perspectivisme ne peut pas se comprendre sans comprendre la maladie de Nietzsche, en fait, qu'on peut appeler bipolarité, maniaco-dépression ou autre. En tout cas, Nietzsche, c'est du perspectivisme parce que c'est la capacité à se mettre à la place de celui qui connaît la surabondance de la vie et celui qui connaît la dépression de la vie. Celui qui désespère et celui qui finalement va être dans une expansion de la vie extraordinaire. Et donc du coup, à travers ça, il y a une forme de vitalisme, hein, finalement, c'est-à-dire une forme de vitalité de la vie qui va être valorisée. Et ce que Nietzsche va valoriser à travers son vitalisme et sa surabondance de la vie, c'est ce qu'il appelle le sens de la terre. Le sens de la terre, c'est la capacité à affirmer la vie sur terre comme étant digne d'être vécue, contre le christianisme qui dévalorise le sens de la terre, contre le christianisme qui valorise les penchants nihilistes et qui va dévaloriser le sens de la terre. Donc, chez Nietzsche, on a vraiment ce perspectivisme, et c'est ça qui qualifie le plus sa philosophie, qui dérive de son propre vécu et qui traduit plus largement une façon de concevoir l'histoire et le développement historique. Quand je dis historial, en fait, j'entends des déterminations structurales qui déterminent l'histoire. Et par exemple, Napoléon va être une manifestation de la volonté de puissance qui va être la traduction chez Nietzsche d'un certain état du corps et de l'esprit. Quand je dis perspectivisme, je dis une perspective décadente, dépressive, ou une perspective surabondante et expansive. Et finalement, Nietzsche, en fait, s'auto-diagnostique et va faire, à partir de cet auto-diagnostic, un diagnostic de l'histoire elle-même. C'est ça qui est passionnant chez lui. C'est quand même un penseur passionnant, Nietzsche, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème pour le dire. Il ne s'agit pas d'en faire une critique binaire et complètement plate et militante. Hein. Bien sûr, c'est un penseur passionnant. C'est qu'il fait son auto-diagnostic et qu'à travers cet auto-diagnostic, il diagnostique l'historialité elle-même. Ça, c'est très intéressant.
Oui, donc ce que tu veux dire, en fait, c'est que finalement, chez Nietzsche, disons que il ne va pas rechercher, comme beaucoup de philosophes, finalement, la vérité en soi, mais il va simplement, finalement, toujours partir d'une perspective subjective. Hein, c'est ça, le perspectivisme, si j'ai bien compris, en épistémologie, c'est l'idée que on ne peut pas connaître la vérité en soi indépendamment d'une perspective. Et là, la perspective, c'est celle de Nietzsche. Et effectivement, il fait...
Et c'est celle de la maladie, hein, je tiens à le dire. Hein, c'est celle de la maladie et de la santé. Le perspectivisme, c'est celle de la maladie et de la santé. Excuse-moi de te couper, mais juste précisons ceci.
Oui, oui. Et du coup, c'est aussi ce qui va expliquer. C'est effectivement une explication qui peut être intéressante pour comprendre, par exemple, comment est-ce que finalement Nietzsche passe dans sa première phase, qui est une phase globalement, finalement, qui est assez sombre, où finalement, sa philosophie, notamment dans La naissance de la tragédie, c'est vraiment dire qu'en gros, il y a une sorte de décadence, finalement, depuis l'Antiquité, où il y a eu l'abandon de l'esclavage a entraîné une sorte de déclin de la pensée intellectuelle, puisque pour Nietzsche, hein, l'esclavage, c'est vraiment un fondement de la civilisation. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de son œuvre. Il a toujours défendu l'esclavage, et il a toujours défendu l'idée qu'il n'y avait qu'une aristocratie intellectuelle, finalement, qui pouvait penser le monde et aussi dominer le monde. Mais effectivement, dans sa première phase, les années 1870, il a plutôt, disons, une perspective, voilà, c'est plutôt un penseur, voilà, de la décadence de la civilisation antique, à cause de Socrate, qu'il pense comme finalement le premier démagogue, presque le premier révolutionnaire d'une certaine manière. Et après, par contre, dans sa troisième phase d'écriture, notamment, bon, celle du gai savoir, de la généalogie de la morale, voilà, globalement un de ses principaux essais philosophiques. Là, effectivement, il va avoir la perspective que toi t'appelles surabondante, c'est-à-dire que c'est vraiment la philosophie de la vie, la philosophie de la volonté de puissance qui s'affirme. Et là, effectivement, il est un peu en décalage par rapport à d'autres penseurs réactionnaires, puisque ce qui caractérise quand même beaucoup de penseurs réactionnaires, il faut bien le dire, à cette époque, c'est justement d'être dans la pensée de la décadence, notamment la décadence raciale qu'on retrouve chez Gobineau, c'est-à-dire l'idée finalement que il y aurait une dégénérescence de l'humanité finalement par finalement le mélange des races, le fait que voilà, les civilisations seraient entrées dans un déclin biologique inexorable, alors que Nietzsche, lui, effectivement, dans ces années 1880, il a une philosophie beaucoup plus optimiste, alors effectivement, qui, comme tu le dis, semble être en lien aussi avec le fait que lui-même va mieux. Et là, au contraire, il est sur vraiment une philosophie très optimiste, une philosophie de l'affirmation, là où, dans sa première phase, pour lui, l'optimisme, c'était une perspective qu'il fallait condamner parce que c'était une perspective qui devait mener à la révolution, voilà, à la destruction, finalement, de l'ordre social bon, qu'il appelait de ses vieux, c'est-à-dire un ordre aristocratique basé sur l'esclavage. Là, au contraire, dans les années 1880, il est beaucoup plus affirmatif et il dit, en fait, une civilisation aristocratique, une civilisation des maîtres, où ces maîtres affirmeraient leur volonté de puissance, en finiraient avec la morale des faibles, la morale de l'égalité, la morale démocratique et socialiste, est possible. Et effectivement, c'est intéressant ce que tu dis sur, finalement, on n'est pas en train de dire, évidemment, on n'est pas en train de tomber, finalement, dans simplement faire la philosophie de Nietzsche un simple reflet, finalement, de sa psychologie, mais en même temps, et je pense que c'est intéressant que Nietzsche lui-même ait théorisé le fait que sa philosophie était quand même, en partie, même si on retrouve des constantes tout au long de son œuvre, notamment son côté rebelle aristocratique, justement, eh bien, on voit bien comment est-ce que il y a des phases, ces phases théoriques correspondent aussi avec des phases finalement de sa propre vie. Alors, est-ce que tu pourrais revenir peut-être un petit peu, Benoît, avant qu'on arrive sur la thématique, peut-être un petit peu présenter ce qui, selon toi, fait, les thèmes essentiels de Nietzsche à ces trois grandes périodes. Alors, tu peux commencer évidemment par éventuellement par la dernière, puisque c'est la plus connue, comme tu veux. Mais en tout cas, voilà, préciser un petit peu quelle a été la philosophie de Nietzsche dans les trois grands moments que, en général, les philosophes spécialistes de Nietzsche repèrent. Bon, Losurdo dit 4, mais on va s'en tenir peut-être à 3.
Oui, il y a les trois grandes périodes dont tu parles, mais il y a une continuité à travers ces trois grandes périodes, c'est l'aristocratisme. D'une certaine manière, le perspectivisme de Nietzsche, si on le rattache à sa psychologie personnelle, c'est des moments de surabondance, peut-être des phases maniaques, et des moments de dépression de la vie, des phases nihilistes. Le nihilisme, c'est ce qui s'oppose à l'affirmation aristocratique. L'affirmation aristocratique, dans la généalogie de la morale, c'est ce qui va correspondre au fait de nommer les choses pour les désigner, au fait de s'affirmer soi-même comme étant le bon et d'affirmer l'autre comme étant le vil, alors que les juifs, les premiers juifs esclaves, auraient inversé la morale aristocratique en disant ce qui est mauvais, c'est celui qui nous domine, et le bon est celui qui est le dominé. Ils ont inversé, finalement, les premiers esclaves juifs, la morale aristocratique. C'est pour ça que Nietzsche dit déjà dans « Par-delà bien et mal », les Juifs sont le peuple né pour l'esclavage, comme dit Tacite, et avec lui toute l'Antiquité. Ensuite, il y a une continuité là-dedans. Il dit que la révolte des esclaves, ainsi que l'égalitarisme, faisant le lien entre le judaïsme et le christianisme, la Révolution française, le féminisme, l'anti-esclavagisme et le socialisme, sont nés de la même source. Donc finalement, chez Nietzsche, en fait, il y a une inversion judaïque de la morale aristocratique qui va se prolonger dans le christianisme qui va universaliser finalement le judaïsme, dans la Révolution française, puis dans le féminisme, puis dans l'anti-esclavagisme, puis dans le socialisme. Et Nietzsche s'oppose à toutes ces formes de révolution. Donc quand tu disais qu'il était contre-révolutionnaire, tu avais entièrement raison. Et il dira par exemple, dans un fragment de 1884, « Continuation du christianisme par la Révolution française, sachant que le christianisme est lui-même une continuation du judaïsme, le corrupteur et Rousseau déchaînent de nouveau la femme qui à partir de là est présente de façon toujours plus intéressante, en proie à la souffrance, puis viennent les esclaves, puis les pauvres et les travailleurs, puis les vicieux et les malades, le royaume céleste des pauvres d'esprit a commencé. » Je considère que ce fragment est tout à la fois anti-judaïque, anti-chrétien, anti-féministe, anti-esclavagiste, anti-socialiste, anti-pauvre et validiste. Sur la question du racisme colonial, il écrit une lettre en 1884 à Overbeck où il lui dit « Si tu as observé la sourde indifférence avec laquelle le noir endure ses graves maladies internes, tandis que les mêmes mots te pousseraient presque au désespoir. » Et il qualifie l'esclave de représentant de l'homme préhistorique. Il parle aussi, Nietzsche, d'anéantissement nécessaire des races décadentes à la même époque où l'on extermine des populations entières en Amérique du Nord et en Australie. Il justifie aussi l'impérialisme colonial en l'associant à la fatalité de la vie même. Il écrira que le besoin de conquête d'un peuple, sa soif de puissance, satisfaite par les armes, le négoce, le transport, la colonisation, doit être défini comme un droit à la croissance. Pour Nietzsche, une société qui refuserait la guerre et la conquête serait en déclin. Donc il justifie complètement l'impérialisme colonial dans un fragment posthume, 14-14. Autre citation qui invalide la thèse d'une absence de racisme biologisant chez Nietzsche, et là tu en parlais tout à l'heure, c'est le métissage. Le latin malus, je cite, que je rapproche du grec mélas noir, pourrait avoir désigné l'homme commun en fonction de sa couleur foncée, surtout par ses cheveux noirs. Puis Nietzsche s'inquiète de la race des conquérants et des maîtres, celle des Aryens, ne soit pas en train de succomber même physiologiquement. Donc ce que Nietzsche craint le plus, c'est que les aristocrates succombent. C'est que la race des conquérants succombe. Et pareil sur le métissage, il dit ce qui est courant, ce sont les races mélangées, et il dit le mot race, hein, où l'on trouve nécessairement, en plus de la disharmonie des formes corporelles, des disharmonies dans les habitudes et les jugements de valeur. Livingstone entendit quelqu'un dire « Dieu a créé les blancs et les noirs, mais c'est le diable qui a créé les métis ». C'est toujours Nietzsche qui dit ça. Le diable a créé les métis. Les Grecs nous offrent le modèle d'une race et d'une civilisation devenue pure. Espérons qu'un jour, il se formera pareillement une race et une culture européenne pure. Voici le projet nietzschéen. Et sur l'eugénisme, pour finir, Nietzsche a pu se féliciter que soit rendue possible l'émergence d'associations eugéniques internationales qui se fixent pour tâche d'élever la race des seigneurs, celle des futurs maîtres de la terre, volonté de puissance, 4, paragraphe 308. Donc cette sentence nietzschéenne célèbre n'est pas nécessairement une métaphore. Périssent les faibles et les ratés, premier principe de notre amour des hommes, et qu'on les y aide. Et donc, quand tu me parles de trois périodes, moi je vois une seule période chez Nietzsche. Nietzsche a toujours été fidèle à ce genre de sentence. Nietzsche a toujours été fidèle à son aristocratisme. Nietzsche a toujours été fidèle à cette tendance contre-révolutionnaire, anti-féministe, anti-socialiste, anti-chrétienne et surtout à la racine anti-judaïque. Parce que à la base, ce sont les esclaves juifs qui se sont révoltés et qui ont inversé la morale aristocratique. C'est ce qu'on découvre dans la généalogie de la morale, mais c'est ce qu'on pouvait déjà découvrir dans les autres textes. Certains diront, certes, Nietzsche distingue dans l'Antéchrist, par exemple, différents types de judaïsme. Il n'est pas essentialisant. Mais c'est toujours sur la base de l'inversion de la morale aristocratique qu'il pense le judaïsme. Et donc, il est en fait essentialiste, quoi qu'on en pense. Et j'ai envie de rajouter deux autres citations de la généalogie de la morale. Tout ce qui a été entrepris sur terre contre les nobles, les puissants, les maîtres, les détenteurs du pouvoir, n'est rien en comparaison de ce que les juifs ont fait contre eux. Les juifs, ce peuple sacerdotal qui ne put en définitive avoir raison auprès de ses ennemis et de ses vainqueurs que par le total renversement de leurs valeurs, donc par l'acte de vengeance intellectuelle par excellence, c'était là la seule issue qui convainc à un peuple de prêtres, au peuple de la vengeance sacerdotale la plus profondément ancrée. Ce sont les juifs qui, avec une effrayante logique, osèrent retourner l'équation des valeurs aristocratiques, bon égale noble égale beau égale heureux égale aimé des dieux, et qui ont maintenu ce retournement avec la ténacité d'une haine sans fond, la haine de l'impuissance, affirmant « Les misérables seuls sont les bons, les pauvres, les impuissants, les hommes bas sont les seuls bons, les souffrants, les nécessiteux, les malades, les difformes sont aussi les seuls pieux, les seuls bénis de Dieu. Pour eux seuls, il y a une félicité, tandis que vous, les nobles et les puissants, vous êtes de toute éternité les méchants, les cruels, les lubriques, les insatiables, les impies. Vous serez éternellement aussi les réprouvés, les maudits, les damnés. » On sait qui a hérité de ce renversement juif des valeurs, et ce sont les chrétiens qui ont hérité de ce renversement juif des valeurs et qui l'ont universalisé. Donc, il y a un anti-judaïsme fondamental chez Nietzsche, au sens où le judaïsme aurait inversé la morale aristocratique. Et ensuite, ce judaïsme va se transmuter dans le christianisme. Ce christianisme va se séculariser dans la Révolution française. Cette Révolution française va donner lieu au féminisme, à l'anti-esclavagisme et au socialisme. Et donc, à tous les niveaux, Nietzsche est contre-révolutionnaire sur une base anti-judaïque, métaphysique. Ça, c'est ma thèse. Je pense qu'elle est justifiée. Donc, je ne crois pas à la thèse des trois périodes de Nietzsche. Je pense que Nietzsche n'a fait que marteler, c'était une philosophie du marteau, Nietzsche, cette même vérité, et que sa grande politique était fondamentalement anti-judaïque, au sens où elle était aussi contre-révolutionnaire, anti-chrétienne, anti-révolutionnaire, anti-socialiste, anti-esclavagiste et anti-socialiste. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Donc, je ne crois pas trop à cette thèse des trois périodes de Nietzsche, parce que moi, je retrouve dans tous ces textes, depuis l'origine, cette même, depuis la naissance de la tragédie, cette même thèse d'une inversion de la morale aristocratique.
Oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, on voit finalement que tout au long de la période d'activité philosophique de Nietzsche, que effectivement, il déploie un peu les mêmes thèmes. Bon, notamment la défense de l'esclavage est vraiment une constance. Simplement, effectivement, il y a des moments où sa position va rhétoriquement prendre une autre forme. Par exemple, là où dans un premier temps, il était, il s'inscrivait beaucoup dans les thèses, voilà, de Wagner, antisémite, nationaliste allemande. Qui pense vraiment la décadence, la dégénérescence raciale. Dans un deuxième temps, il va s'éloigner un petit peu de ses thèses, il va les rejeter et il va s'intéresser davantage, par exemple, à la philosophie de Voltaire. Mais finalement, dans la philosophie de Voltaire, il y a toujours finalement une défense d'un principe aristocratique, un mépris.
Il y a un très fort antisémitisme chez Voltaire, hein, il faut le préciser quand même. Hein.
Oui, oui, exactement. Un très fort antisémitisme chez Voltaire. Finalement, ce qui est intéressant, on peut dire chez Nietzsche, c'est que on retrouve chez lui finalement la rhétorique des principaux courants de pensée, réactionnaires du 19e siècle, mais finalement combinés dans une seule œuvre, c'est-à-dire
et surtout articulé de façon systématique. On dit souvent que Nietzsche est anti-système. Quand on lit la généalogie de la morale, c'est un système. C'est un système extrêmement cohérent. Et ce système se résume par la formule suivante, la Judée contre Rome. Rome, l'aristocratique, la Judée, l'esclavage. Donc du coup, Rome contre la Judée, c'est ce qui résume le système nietzschéen. Nietzsche n'est pas anti-système, il a été très systématique dans sa pensée, et il a martelé ça au marteau, il le dit lui-même, c'est une philosophie au marteau, il a martelé ça pendant toute son œuvre.
Bien sûr, et je pense que ce qui finalement a induit des confusions, finalement aussi dans sa lecture de gauche et d'extrême gauche, bon, il sait deux choses. D'une part, c'est le fait que certaines des affirmations de Nietzsche sont effectivement, notamment dans la naissance de la tragédie, très métaphoriques. Hein, par exemple, finalement, il attaque d'une certaine manière finalement la démocratie, les lumières, etc. Avec un vocabulaire finalement très métaphorique. Donc globalement, ça va être, il va parler du socratisme en fait pour parler de la démocratie. Il va pas nommer les juifs directement comme des éléments, comme finalement l'élément étranger à la civilisation, mais globalement on comprend que c'est ça. Il va parler de l'homme actuel dérivé du socratisme comme finalement une errance sans patrie, qui est évidemment une référence au mythe du juif errant. Il va parler de l'existence socratique comme déracinée du sol natal, qui est évidemment clairement encore une fois une référence finalement aux juifs. Et il va donc sous une forme un petit peu cryptée, défendre un antisémitisme là pour le coup très proche de Wagner. Bon, sur le coup, il va finalement évoluer dans sa formulation finalement de son anti-judaïsme, puisque il va s'éloigner un petit peu de la formulation, disons, wagnérienne de l'antisémitisme. Mais comme tu le dis bien, finalement, il va poursuivre finalement son antisémitisme sous une forme un peu différente, qui est, comme tu en parles dans ton texte dans Jägernaut, finalement un antisémitisme métaphysique, où finalement il va moins s'attaquer aux juifs en tant que personne. Là où il le faisait très clairement dans sa première période, il évolue un petit peu sur ce sujet, et finalement, il va passer à une conception finalement du judaïsme, moins comme une race biologique ou un groupe humain de personnes, mais vraiment presque comme un esprit, comme un esprit qui finalement serait l'esprit de la modernité.
Oui, un esprit qui s'incarne, c'est complètement idéaliste, complètement, c'est un esprit qui s'incarne dans l'histoire, et même si on veut débroussailler un petit peu le rapport à Wagner, on a dit, Nietzsche a rompu avec Wagner parce que Wagner était antisémite. Mais Nietzsche, effectivement, s'opposait à l'antisémitisme de comptoir de Wagner. Mais par contre, il n'a pas supporté Parsifal, qui est une œuvre fondamentalement chrétienne. Or, Nietzsche explique très bien, dans la Genèse morale, que le christianisme est une continuation du judaïsme. Donc finalement, ce qu'il ne supporte pas chez Wagner, c'est un juif qui s'ignore lui-même et qui se hait lui-même. Donc, la rupture avec Wagner n'est pas une négation de l'antisémitisme de Nietzsche, mais une réaffirmation de son antisémitisme, puisque son antichristianisme est précisément la continuation par d'autres moyens de son antisémitisme. Et puisque justement, il a rompu avec Wagner par antichristianisme. Je ne sais pas si tu comprends mon raisonnement, mais il est apparemment assez clair. Et donc du coup, c'est cet antisémitisme métaphysique, pour reprendre une formule de Di Cesare, dans Heidegger, les Juifs, la Shoah, elle utilise cette expression, c'est un antisémitisme métaphysique dont fait preuve Nietzsche à ce moment-là, et donc s'il fait rupture avec Wagner, ce n'est pas par anti-antisémitisme, mais c'est par antisémitisme métaphysique, puisque Wagner est un juif qui s'ignore, qui s'est transmuté en chrétien. Et pareillement, on pourrait reprendre son billet de la folie quand il a dit à son ami Overbeck « J'ai fait fusiller tous les antisémites ». Souvent, on utilise ce billet de la folie pour dire que Nietzsche n'était pas antisémite, mais que même dans ses périodes de folie, il était anti-antisémite. Mais on peut dire que les antisémites sont des chrétiens qui sont des juifs qui s'ignorent eux-mêmes et qui se haïssent eux-mêmes. Et le thème de la haine de soi juive est un thème antisémite par excellence. Donc, même ce billet de la folie peut confirmer l'antisémitisme métaphysique de Nietzsche. Et c'est ça, moi, que je défends dans mon article de Jägernauth, effectivement. Donc, comme le christianisme est une transmutation universalisante du judaïsme, et comme Nietzsche, par antichristianisme, va s'opposer aux antisémites, il va réaffirmer son antisémitisme métaphysique contre l'antisémitisme de comptoir. Par contre, c'est vrai qu'il était contre l'antisémitisme de comptoir. Mais venant de chrétiens qui sont eux-mêmes des juifs qui se haïssent eux-mêmes.
Il combat ce qu'il considère comme finalement un antisémitisme vulgaire, finalement par un antisémitisme qui lutte contre ce qui pour lui est le fondement du problème, c'est-à-dire pas tellement, contrairement aux antisémites, finalement le fait qu'il y ait des juifs en Allemagne, par exemple, même si évidemment il a aussi des discours où finalement il considère les juifs finalement comme des étrangers au peuple allemand, mais effectivement il a des positions disons plus ambiguës sur le sujet. Par contre, ce qu'il considère lui comme le fond du problème, et ça va de pair avec son aristocratisme, c'est évidemment l'idée, et c'est évidemment ta lecture de la généalogie de la morale est très intéressante sur le sujet, c'est finalement que c'est à partir du judaïsme qu'on peut tracer une sorte de généalogie finalement des idées révolutionnaires, des idées finalement qui renversent les valeurs aristocratiques qui pour Nietzsche sont les valeurs sur lesquelles doivent se fonder toute civilisation.
Exactement, exactement. Finalement, on retrouve les tropes antisémites classiques du judéo-bolchevique. On retrouve aussi le trope classique du financier juif, puisque la révolution bourgeoise de 1789 est héritière de l'inversion juive des valeurs. Et comme cette révolution bourgeoise débouche sur le capital financier, on retrouve le trope antisémite du juif financier. Donc, on a les deux tropes, en fait, antisémites classiques, le judéo-bolchevique et le juif financier. Et ça, on le retrouve chez Nietzsche. Hein. Si on empiricise un petit peu sa pensée et si on la vulgarise, si j'ose dire, lui, il n'a jamais eu des termes aussi vulgaires, bien évidemment. Il se situait sur la grande politique, donc forcément, ce n'était pas ses préoccupations. Mais si on vulgarise un petit peu sa pensée, on retrouve les deux tropes antisémites classiques du XXe siècle, le juif financier qui sécularise à travers la Révolution française la victoire de la bourgeoisie, et le judéo-bolchevisme, puisque le socialisme n'est que l'inversion de la morale aristocratique par les juifs. Donc moi, c'est ça que j'explique dans mon article, c'est qu'on retrouve les deux tropes antisémites classiques, en fait, c'est Nietzsche, et à la fois, donc, du coup, un anticapitalisme tronqué et un antisocialisme tronqué. Ça se rejoint complètement. Hein. Et c'est exactement, je veux pas faire un point Godwin, mais c'est exactement ce que les nazis ont affirmé des juifs à une certaine époque. Donc, Nietzsche était largement récupérable à ce niveau-là. Et moi, ça, je l'affirme sans aucun problème. Il est un peu facile de dire que Nietzsche est complètement innocent de sa récupération par les nazis, sachant que dans son œuvre, il y avait déjà ces possibilités de récupération. Alors, il y a une radicalisation, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Nietzsche n'a pas de propos d'extermination, ça c'est sûr. Une radicalisation, mais il y a quand même des points de passage, ça c'est sûr. Et moi aussi, quelque chose que j'affirme, c'est que ce qu'on lit dans les cahiers noirs de Heidegger sur les juifs, qui sont les représentants de la technique, qui sont les représentants de la machination, était déjà présent chez Nietzsche dans la généalogie de la morale, et que Heidegger n'a fait que radicaliser, en fait, ce que Nietzsche avait déjà affirmé dans la généalogie de la morale. Et que donc, ce qui nous choque profondément dans la pensée heideggerienne des années 30, 40, 50 des cahiers noirs, était déjà en germe dans la généalogie de la morale et qu'il n'a fait que radicaliser des thèmes qui étaient déjà nietzschiens. Quand Heidegger dit que le juif, c'est la technique, c'est très proche de ce que Nietzsche dit quand il dit que d'une certaine manière, le juif, c'est le représentant d'une domination impersonnelle, d'une domination machinique, d'une domination inversante. C'est très proche. Et donc, Heidegger a été très proche de Nietzsche. Il a consacré un ouvrage très long sur Nietzsche et il a été très influencé par Nietzsche. Je pense qu'il faut se poser la question de l'héritage nietzschéen en ce qui concerne la lecture des cahiers noirs de Heidegger. Moi, j'ose le dire.
Oui, oui, et d'ailleurs, finalement, cet héritage qu'on retrouve chez Heidegger, effectivement, il faut pas nier le fait que, d'une part, Nietzsche était récupérable par l'extrême droite parce que, finalement, globalement, le contenu de son œuvre est d'extrême droite, hein, quand même, notamment à la fin de sa vie, hein, il défend clairement dans Ecce Homo, Le Crépuscule des Idoles, L'Antéchrist, Ainsi parle Zarathoustra, vraiment l'idée que il faut finalement une domination d'une race de seigneurs, d'une race de maîtres sur des esclaves. Il faut un rétablissement de l'esclavage. Qu'il faut que les surhommes puissent affirmer leur volonté de puissance, ce qui implique du coup une société fondée sur une inégalité radicale finalement entre cette race des seigneurs et finalement le reste de la population qui serait complètement soumise. Et c'est là où effectivement il y a une lecture finalement assez paradoxale de la gauche et de l'extrême gauche. Par exemple, du fait que Nietzsche critique la division du travail ou finalement le sort des ouvriers à certains moments de son écriture philosophique, et à d'autres moments, il va faire, ça c'est une citation qu'on retrouve notamment dans les milieux anarchistes, Nietzsche va faire de l'État le plus froid des monstres froids. Et ce que montre, je pense, de manière intéressante L'eau sourde dans son livre Le rebelle aristocratique, c'est que finalement, la critique du travail de Nietzsche se fait au nom finalement d'un mépris aristocratique du travail, d'une part, et d'autre part, critique la misère des ouvriers allemands, non pas pour en appeler au dépassement du capitalisme, sous une forme socialiste, communiste ou autre, mais plutôt pour en appeler à un rétablissement de l'esclavage. Et ces positions, on les retrouve chez d'autres penseurs du 19e siècle, qui d'un côté critiquait le salariat et d'un autre côté en appelait finalement à la préservation ou au rétablissement de l'esclavage. Et puis pour la question de l'État, L'eau sourde dit de manière assez intéressante que finalement la critique de Nietzsche de l'État, c'est une critique qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres penseurs d'extrême droite au 19e siècle et au 20e siècle aussi, notamment dans une partie de la philosophie nazie, c'est une critique de l'État au nom finalement d'une idée que l'État serait une espèce de monstres froids bureaucratiques auxquels il faudrait préférer les libertés féodales, entre guillemets, qui sont la liberté pour les plus forts de dominer les plus faibles. Pas du tout une critique de la domination, mais simplement une critique finalement de la domination sous une forme impersonnelle et bureaucratique au profit d'une domination sous une forme personnelle qui serait la domination des seigneurs, des aristocrates.
Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que d'une certaine manière, la critique nietzschéenne de l'État, ça peut renvoyer à une forme de darwinisme social. Ça, c'est la thèse de Lukács dans Nietzsche, la destruction de la raison. Le darwinisme social, sous sa forme spencerienne, c'est le laisser-faire. Et c'est-à-dire, on laisse faire... C'est-à-dire qu'on laisse les faibles et les ratés, pour reprendre une formule de Nietzsche, périr sans l'aide de l'État, sans État social. Et certes, Nietzsche s'est opposé à Darwin et à Spencer, ça c'est vrai. Nietzsche s'est opposé à Darwin et à Spencer dans de nombreux passages de son œuvre, parce qu'il était contre le principe de la conservation de la vie, il était plus pour la surabondance de la vie. Mais si on transmute en fait la pensée de Nietzsche à travers ce principe de surabondance, on peut avoir un darwinisme social et même un spencerisme de la surabondance qui va en fait laisser faire la logique de la vie, qui supprime les faibles et les ratés. Je suis désolé de m'exprimer comme ça, mais c'est lui qui utilise ces termes, hein, bien sûr, pour laisser s'exprimer la morale aristocratique qui triomphe. Et ça, c'est un peu la thèse de Lukács dans Nietzsche ou la destruction de la raison. Le problème de Lukács, c'est qu'il n'a pas vu que Nietzsche critiquait Darwin et Spencer. Mais je pense que même si Nietzsche critique Darwin et Spencer, on peut reprendre son idée de surabondance de la vie et transmuter le principe du darwinisme social sous une forme radicalisée, en fait. Ça radicalise encore plus le darwinisme social sous la forme de la surabondance de la vie. Et on reste dans ce qu'on a dit depuis tout à l'heure dans le perspectivisme, hein, vraiment, hein, dans deux périodes de la vie de Nietzsche qui ont été déterminantes pour lui pour penser l'historialité du monde, quoi, hein, vraiment. On reste depuis le départ dans cette perspective, mais qui est effrayante finalement, qui est effrayante. Et comment moi ça me fascine comment des philosophes à travers leur vécu biographique propre peuvent créer des mondes, peuvent créer des monstres rien qu'à travers leur vécu biographique propre, quoi. Ça, c'est assez fascinant de se le dire. Et chez Nietzsche, c'est particulièrement visible, quoi. Voilà, c'est juste ce que je veux dire.
Oui, et c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement. On trouve souvent chez Nietzsche finalement une critique de position auquel souvent on le rattache, mais et donc on a l'impression que du coup Nietzsche critique Darwin, donc il peut pas être darwiniste social. Effectivement, il peut pas être darwiniste social au sens vraiment du darwinisme exactement, même si le darwinisme social lui-même avait pris un peu ses libertés par rapport à Darwin. Mais enfin, peu importe. Mais finalement, il le fait au nom d'un vitalisme. Et d'ailleurs, je voudrais, puisque tu parlais tout à l'heure de Lukács. Et de la destruction de la raison. Donc récemment, les éditions critiques ont publié un petit texte de Lukács qui s'appelle Nietzsche, Hegel et le fascisme allemand. Et dedans, il y a une citation de Par-delà bien et mal qui est, je pense, éloquente sur la philosophie de la vie de Nietzsche et qui devrait, je pense, voilà, disons, mettre un terme à toutes les, finalement, les tentatives de réappropriation à gauche et à l'extrême gauche de sa philosophie de la vie. Donc il écrit « La vie même est essentiellement appropriation, atteinte, conquête de ce qui est étranger et plus faible, oppression, dureté, imposition de ses formes propres, incorporation et à tout le moins exploitation. L'exploitation n'appartient pas en propre à une société pervertie ou imparfaite et primitive, elle appartient en propre à l'essence du vivant, en tant que fonction organique fondamentale, elle est une conséquence de la volonté de puissance authentique qui est justement volonté de la vie. » Donc là, je pense que voilà, le vitalisme finalement de Nietzsche, aristocratique, est vraiment une apologie de la domination, voilà, est clair, c'est clair effectivement vers quoi elle tend, c'est-à-dire un vitalisme qui finalement ne se formule pas exactement de la même manière que le darwinisme social, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de darwinisme social à proprement parler, mais qui finalement aboutit à l'élimination des faibles, non pas tellement par une sorte de sélection naturelle, mais plutôt par le fait que les forts les écrasent, en fait.
Oui, exactement, et Nietzsche a aussi dit cette phrase, il faut protéger les forts contre les faibles. Il faut protéger les forts contre les faibles parce que les faibles sont plus nombreux, et les faibles inversent la morale aristocratique des forts, et les faibles menacent les forts de leur domination. Et les faibles, c'est les esclaves juifs au départ, hein, faut pas l'oublier. Moi, j'insiste toujours avec Nietzsche sur l'antisémitisme métaphysique, parce que c'est vraiment de là que ça part. Et je dis pas anti-judaïsme, parce que c'est pas de l'anti-judaïsme chrétien, c'est l'antisémitisme très moderne. C'est l'antisémitisme qui est à la fois, comme je le disais, connecté au mythe du judéo-bolchevique, au mythe du juif financier. Et là-dessus, il faut protéger les forts contre les faibles, Comment, moi, une des questions que j'aimerais bien qu'on finisse par poser, parce que c'était notre point de départ, comment l'extrême gauche a pu penser qu'une telle pensée puisse être émancipatrice dans le cadre d'un horizon communiste? C'est ça que j'aimerais bien qu'on se pose comme question ensemble avant de finir cette émission. Comment les Deleuze, les Foucault, les Lacoula Barthes, les Jean-Luc Nancy, les Alain Korn, les Stiegler ont pu penser qu'une telle pensée ait pu être émancipatrice du point de vue d'un horizon communiste. J'ai lu en détail, je pense que ça peut nous aider, le Deleuze et la... de Deleuze, Nietzsche et la philosophie. Je vois de quoi il en retourne. Je pense que c'est un ouvrage qu'il faut lire en détail pour comprendre le rapport de Nietzsche à l'extrême gauche. Deleuze, dans cet ouvrage, interprète la généalogie de la morale comme étant une critique du ressentiment qui est anti-chrétienne et donc anti-domination. Ça, c'est quand même très important à prendre en compte parce que la critique du christianisme, c'est ce qu'ont en rapport les socialistes et les nietzschéens. Et donc, du coup, forcément, on peut trouver un rapport entre les socialistes et les nietzschéens là-dessus. Là-dessus, je vois le rapport. Et effectivement, Deleuze établit plus ou moins ce rapport. Le ressentiment, c'est l'homme de la morale qui oppose le bien et le mal, qui est dans une forme de patriarcat, etc., etc. Ça, je peux le comprendre. Mais là où Deleuze ne remonte pas assez loin, c'est qu'il ne voit pas que derrière, il y a un antisémitisme métaphysique. Il ne cite pas une seule seconde la question du judaïsme à ce moment-là. Et c'est un problème. Moi, c'est surtout là-dessus que je pense qu'il faut insister. Je pense que Nietzsche a pu être apparemment émancipateur pour les pensées de gauche et d'extrême gauche parce qu'il était antichrétien. Et parce que le christianisme était la religion de la domination. Mais il faut déconstruire ce rapport pour interdire toute symbiose en fait entre l'extrême gauche et Nietzsche. Moi, je trouve que c'est extrêmement important de le faire aujourd'hui et c'est un peu le but de cette émission, pour interdire tout syncrétisme entre Nietzsche et l'extrême gauche. Je pense que c'est pas possible. Pour moi, c'est une antinomie. Mais par contre, je vois le lien. Je vois le lien entre l'antichristianisme et le socialisme. Je vois le lien entre... Mais il faut déconstruire ce rapport. Parce que derrière le christianisme, chez Nietzsche, se cache justement le féminisme, le socialisme, l'anti-esclavagisme, etc. Et donc, c'est pas compatible du tout avec une pensée de gauche. Moi, j'ai l'impression que c'est là-dessus que la gauche a pu tabler sur l'antichristianisme de Nietzsche. Et donc, une forme d'émancipation.
Oui, je pense qu'effectivement, ce qui fait qu'une partie de la gauche, une certaine gauche, s'intéresse à Nietzsche, et je pense que c'est pas un hasard si cette gauche, c'est globalement la gauche post-structuraliste, c'est-à-dire la gauche, globalement, qui rejette Marx et le marxisme, je pense que ce n'est pas un hasard qu'elle le fasse. À mon avis, c'est parce que elle a une vision de la société comme, finalement, composée d'individus, qui serait opprimé non pas par une structure de domination impersonnelle ou par une structure de classe, en fonction des visions, mais par la morale, en fait. Donc c'est là, évidemment, tout l'intérêt de Nietzsche, c'est la critique de la morale chrétienne, mais la morale plus généralement, et y compris la morale, d'une certaine manière, la morale socialiste. Et là-dessus, je pense qu'on peut rapprocher, finalement, Nietzsche de Stirner. Stirner, qui a été le fondateur de l'anarchisme individualiste. Et finalement, pour Stirner, il faut... Alors évidemment, c'est pas vraiment une pensée aristocratique au sens où ça défendrait la domination en tant que telle d'un groupe sur un autre, mais c'est l'idée quand même que la réalité fondamentale, ce sont des individus et que ces individus, finalement, doivent prévaloir.
Effectivement, Stirner, c'est exactement le point de contact. L'unique est sa propriété, c'est effectivement l'égoïsme érigé en dogme et effectivement l'aristocratisme du coup égoïste érigé en dogme. Effectivement, c'est une pensée anti-étatique, anti. Il faut relire l'idéologie allemande pour comprendre à quel point Stirner est inadapté pour penser la critique sociale et pour critiquer Nietzsche par ailleurs, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Là-dessus, t'as trouvé le bon point d'ancrage. Relire l'idéologie allemande sur Stirner et donc critiquer Nietzsche par ricochet, quoi. Complètement d'accord.
Bien sûr, et je pense que en fait, ce que la gauche post-structuraliste a trouvé, c'est chez Nietzsche et comme finalement les anarchistes individualistes aussi ont pu trouver chez Stirner, c'est finalement l'idée que la domination, ce ne serait pas la domination de structures impersonnelles sur les individus ou notamment la domination de classe, la domination raciste, la domination patriarcale, mais qu'en réalité, ce serait plutôt la domination finalement d'abstraction, alors pas pour le coup d'abstraction réelle au sens de la critique de l'art, mais vraiment d'abstraction, comme l'humanité, le socialisme, Dieu, et donc dans ce cas-là, effectivement, un rejet finalement de toute forme d'idéologie même émancipatrice, de projet collectif, disons, émancipateur, et finalement, la seule structure d'oppression dans cette lecture finalement qu'on retrouve chez Nietzsche, qu'on retrouve chez les post-structuralistes, qu'on retrouve chez Stirner, c'est finalement une lecture idéaliste. C'est d'où l'intérêt d'ailleurs de la critique de Marx, des philosophes idéalistes dans l'idéologie allemande. Et finalement, chez les post-structuralistes, il y a l'idée qu'on retrouve aussi chez Nietzsche que ce qui domine finalement les personnes, ce ne sont pas d'autres groupes ou des structures impersonnelles de domination, mais ce sont des normes, une morale. Et du fait que Nietzsche, lui, critique la morale, et qui en plus était la morale dominante à l'époque, et qui encore dans les années 60-70 était la morale chrétienne, catholique et juive aussi, hein, pour ce qui est du coup par exemple de la réappropriation chez de nombreux penseurs juifs de Nietzsche, hein, notamment de penseuses juives comme Judith Butler, finalement il y a l'idée que la domination, ce n'est pas, voilà, la domination, encore une fois, d'un groupe sur un autre ou de structures impersonnelles sur l'ensemble des individus, mais c'est la domination d'une morale. Et en tant que Nietzsche, lui, critique la morale du point de vue individuel, eh bien, Nietzsche, eh bien, évidemment, plaît à toute cette galaxie post-structuraliste.
Ouais, complètement d'accord.
Qui considère que l'émancipation, c'est l'émancipation non pas de ces structures de domination ou de domination de classe, de race et de genre, mais l'émancipation de la morale. Et donc, évidemment, Nietzsche, là-dessus, est un penseur de référence, hein, sur la critique de la morale.
Complètement d'accord. Ouais. Crois qu'on a dit, des choses déjà importantes, et puis on peut s'arrêter ici.
Oui, oui, exactement. Alors du coup, bon, bah, pour ceux, évidemment, qui voudraient en savoir plus, qui voudraient prolonger, disons, la critique, donc on peut lire, évidemment, le livre de Domenico Losurdo, Nietzsche, le rebelle aristocratique, même si, bon, c'est un peu embêtant parce que le livre est publié par les éditions d'Elga, qui sont des éditions staliniennes abominables, qui défendent l'URSS et ses crimes. Bon, donc essayez de le voler ou de l'emprunter. Ensuite, on peut recommander donc, voilà, la lecture évidemment des livres de Lukács, notamment le livre paru aux éditions Critique, Nietzsche, Hegel et le fascisme allemand. Et puis évidemment, on invite du coup pour en savoir plus sur ta critique de Nietzsche, donc Benoît, à relire donc ton article dans Jägernaut numéro 1 sur Nietzsche. Donc merci beaucoup Benoît.
Merci, à bientôt.